Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, très bon réveil à tous, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une nouvelle étape dans l'enquête sur la mort du petit Émile. Des dizaines d'ADN en cours de prélèvement. Les enquêteurs passent au crible tous les habitants et les vacanciers présents au Haut-Vernay le jour de la disparition. La Russie était-elle derrière le drone abattu en Suède, neutralisé près du porte-avions français Charles de Gaulle? L'enquête est en cours. Et puis le rêve européen continue pour le LOSC, qualifié en 8e de la Ligue Europa en battant Belgrade 2-0 grâce à un Olivier Giroud très en forme.
L'enquête sur la mort du petit Émile entre dans une nouvelle dimension.
On ne sait toujours pas ce qui est arrivé au petit garçon près de 3 ans après sa disparition dans le hameau du Haut-Vernay. Alors les juges d'instruction élargissent le spectre. Pierre Bazin, service police-justice d'RMC, il lance une grande campagne de prélèvement ADN.
Oui, dans les prochaines semaines, plusieurs dizaines de personnes vont être sollicitées pour effectuer des prélèvements ADN afin de comparer les résultats avec les traces retrouvées notamment sur les vêtements du petit garçon. Selon les informations de nos confrères de BFM TV, des prélèvements ont déjà été effectués sur 4 personnes résidant dans le hameau du Haut-Vernay. Au total, ce sont plusieurs dizaines d'hommes et de femmes qui vont être concernés par cette opération puisque tous étaient présents ou de passage au moment de la disparition du petit garçon de 2 ans et demi. Il s'agit donc d'habitants, de voisins, mais aussi de vacanciers qui auront rendez-vous dans une gendarmerie proche du Haut-Vernay. Cette vaste opération fait partie des actes d'enquête qui ont été réclamés par les grands-parents d'Émile. Toutefois, une source proche du dossier précise à nos confrères de BFM TV que cette opération était prévue de longue date par les magistrats instructeurs.
Un mini remaniement du gouvernement. Il fallait remplacer plusieurs ministres candidats aux municipales. Il y a donc un peu de changement à noter ce matin. Thomas Becker, 4 nouveaux membres du gouvernement. Ce sont des proches d'Emmanuel Macron, à commencer par la remplaçante de Rachida Dati au ministère de la Culture.
Oui, c'est Catherine Pégard, jusqu'ici conseillère culture du président de la République. Elle a dirigé le château de Versailles entre 2011 et 2024. Dans cet ajustement, un retour, celui de Sabrina Agresti-Roubache, nommée à l'enseignement professionnel, une très proche du couple Macron qui avait dû quitter le gouvernement, battu aux législatives en 2024. Les 2 autres nommés viennent de l'Assemblée nationale. La macroniste Camille Galliard-Migné sera en charge du handicap. Jean-Didier Berger aura lui un portefeuille sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Même sort que les autres ministres LR, il sera sanctionné par son parti pour avoir rejoint le gouvernement. Dernière modification, Maud Bréjon, la porte-parole, sera aussi chargée de l'énergie. Un élargissement du portefeuille pour cette ministre qui était ingénieure nucléaire dans le privé.
Pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon était à Lyon. Hier soir, le leader de la France insoumise en soutien à sa candidate à l'élection municipale de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi. Meeting dans la ville où est mort le militant nationaliste Quentin Durand qu'il y a 2 semaines. Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé hier son soutien au mouvement antifasciste La Jeune Garde. Sonia Gobry, il s'est montré très offensif.
Sur scène, Jean-Luc Mélenchon donne d'emblée le ton.
Criez ce qui vous amène ici. Résistance, nous sommes tous antifascistes.
Devant des militants galvanisés, le leader insoumis se lance dans une longue diatribe contre les médias, ses adversaires politiques. Il réitère son soutien à la Jeune Garde. Aucune remise en question, pas un pas en arrière. Les militants comme Claude et Léna applaudissent.
Nous, on ne cède pas. Et je veux dire, les périodes difficiles, c'est là où on se serre les coudes. Okay.
La seule solution face aux attaques qu'on subit tout le temps, c'est de rester groupé.
Jean-Luc Mélenchon consolide sa base, mais à force d'outrance, il fait fuir aussi. Younes reconnaît d'ailleurs que certains de ses amis ne votent plus LFI.
Moi, j'essaie de les rassurer en leur disant qu'il ne faut pas avoir peur de la France insoumise parce qu'elle est plus à gauche que d'autres. Parce que je pense justement que les Français, et notamment les gens qui votent déjà à gauche, qui hésitent à voter à gauche, ont besoin de changement, un petit peu de radicalité.
Ces militants insoumis estiment comme leur leader que maintenant, le combat politique se mène entre eux et l'extrême droite.
Et vous, qu'en pensez-vous? Le soutien réitéré par Jean-Luc Mélenchon hier à la Jeune Garde, un certain nombre de diatribes, de hargnes, est-ce que le ton de Jean-Luc Mélenchon vous fait désormais peur? 63% des Français disent désormais qu'il ferait davantage barrage à la France insoumise qu'au Rassemblement national. Et vous, réagissez, je vous attends évidemment au 32-16 si vous voulez défendre Jean-Luc Mélenchon ou au contraire dire qu'il vous fait peur, je vous attends.
La piste russe est envisagée après qu'un drone a été intercepté près du porte-avions français Charles de Gaulle, porte-avions à quai en ce moment en Suède, à Malmö, sur lequel se rend d'ailleurs aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. C'est donc près de ce porte-avions qu'un drone a été abattu avant-hier, sans que l'on sache encore s'il était hostile ou malveillant. Son origine non plus n'est pas encore sûre, mais la Suède accuse la Russie, façon pour le Kremlin de durcir le ton face à la France, analyse le général Vincent Desportes, ancien chef de l'école de guerre.
Les Russes n'ont pu percevoir que comme agressif cette pénétration du porte-avions français en Baltique où jusqu'à présent aucun porte-avions français n'avait jamais pénétré. Donc ils ont juste fait savoir à la France que c'était un acte hostile et eux-mêmes ont donc fait un acte hostile pour expliquer qu'ils répondaient. Vous faites ça, j'ai bien noté, je n'apprécie pas, je vous le fais savoir.
Le Pakistan déclare la guerre ouverte à l'Afghanistan. Message sur X du ministre de la Défense pakistanais. Regain de tension entre les deux pays après de récentes frappes et alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur depuis octobre. Quels étaient ses liens avec Jeffrey Epstein, l'ancien président américain Bill Clinton, devant la commission d'enquête parlementaire américaine aujourd'hui? Il assure jusque-là n'avoir rien su des crimes sexuels du financier américain mort en prison. Sa femme, Hillary Clinton, entendue cette nuit, demande à ce que Donald Trump soit lui aussi entendu.
Et puis en Ligue Europa, c'est un LOSC renversant qui file en huitième.
Les Lillois devaient impérativement gagner pour se qualifier et ils l'ont fait en domptant l'étoile rouge de Belgrade 2-0. Ils avaient perdu 1-0 à l'aller. Alors pour rattraper son retard, Lille a pu compter sur Olivier Giroud qui a marqué en début de match, Jean Baumel.
Face à l'étoile rouge de Belgrade, Olivier Giroud a inscrit son 300e but en club. Le meilleur buteur des Bleus voulait continuer l'aventure européenne.
Quand je parlais aux mecs avant le match, je leur disais d'une saison sur l'autre, tu sais pas si tu rejoueras la Coupe d'Europe. Et moi, je pensais à moi et peut-être que ça aurait pu être mon dernier match de Coupe d'Europe ce soir. Le vivre pleinement, pas avoir de regrets et tout donner. Et quand à la fin, ça sourit, tu relâches tout.
Le jeune milieu de terrain Ayoub Bouhadi est admiratif de la prestation d'Olivier Giroud, toujours en jambes à 39 ans.
Sur le match, même en général, il démontre bien l'état d'esprit de l'équipe. Jusqu'à la fin, il a tout donné. C'est lui qui met le premier but dès l'entame du match. Ça fait du bien.
Pour l'entraîneur Bruno Genesio, le champion du monde 2018 a été un élément fondateur dans la qualification du LOSC.
Mais il a retrouvé de la fraîcheur, il avait beaucoup enchaîné, il avait besoin. Et dans des matchs comme ça, l'expérience est tellement importante. Et ce premier but d'entrée nous a aussi certainement donné beaucoup de force, beaucoup de confiance. Et on a retrouvé un visage plus conforme à ce qu'on avait pu montrer dans la première partie de saison.
En huitième de finale, Lille affrontera Lyon ou les Anglais d'Aston Villa.
Tirage au sort prévu à 13h, celui de la Ligue des Champions à midi. Et puis ce soir, retour de la Ligue 1, Lens se déplace à Strasbourg à 20h45.